שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, ולא המדרש העיקר הוא העיקר אלא המעשה, וכל אמר בדברים מביא חטא. Shimon, son fils, nous enseigne la chose suivante. « Toute ma vie, nous dit-il, j'ai grandi entre les sages. Et je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. » L'essentiel, ce n'est pas dans la parole, mais dans l'acte. Et toute personne qui parle de trop risque de tomber dans la faute, dans le péché. Nous avons ici l'éloge du silence. Au point que le Pirkei Avot nous dit, par l'entremise de Shimon, fils de Rabban Gamliel, qu'il n'a rien trouvé de mieux pour le corps, pour l'homme, que le silence. Pourquoi mettre de côté la parole? Pourquoi invalider la parole? Les anciens disaient que l'homme se distingue de l'animal par deux choses. D'une part, par la raison, l'homme est doté de raison, et d'autre part, par la parole. L'homme est capable de parler, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'animal. Pourquoi donc enlever à l'homme, pourquoi enlever aux juifs, en apparence, je dis bien, cette possibilité de parler? En vérité, on ne vient pas dire à l'homme de ne pas parler. On vient juste ici nous indiquer un ordre de priorité. Nous dit le Maharal que la pensée et la parole se constituent deux forces différentes, indépendantes l'une de l'autre. La pensée relève de l'intelligible, alors que la parole relève du corps humain, de la matière. Or, nous dit le Maharal, il y a un petit problème. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas à la fois et parler et penser. Ma parole, à la limite, peut être un résultat de la pensée. Mais elle ne peut pas être, venir en même temps que la pensée. En tout cas, c'est très difficile. De là, on peut comprendre l'enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel. Lorsqu'on nous dit qu'on n'a rien trouvé de mieux que le silence, c'est une manière de nous dire qu'il vaut mieux réfléchir avant de parler plutôt que le contraire. La plupart des gens préfèrent parler avant même de réfléchir. On ne sait pas tellement comment la parole leur sort, mais ça sort, ça marche. Cela est mauvais. Cela est mauvais, non seulement pour l'homme en général, pour l'humanité, mais d'abord pour le corps. Parce que le but, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a donné un corps, c'est pour faire les mitzvot, c'est pour faire le bien, c'est pour aller dans sa voie. Or, comment peut-on faire les mitzvot correctement si on parle avant de penser et qu'on oublie de penser? C'est donc pour cela, nous enseigne le Maharal, qu'il est très important qu'il n'y a rien de mieux que le silence. C'est-à-dire que plus, moins je parle, on pourrait dire, et plus je réfléchis, plus la parole que je dirai après et plus les actes que je ferai auront du sens. Rav Ovadia Yosef, dans son livre sur les Pirkei Avot, nous rajoute ici une explication intéressante. Il nous éclaire sur un autre aspect de cet enseignement, sur le principe de la Torah. La Torah nous dit qu'il y a une très grande mitzvah d'adresser à son prochain des reproches lorsque celui-ci ne se conduit pas comme il faut. Si je vois, par exemple, un voisin qui est mechalel Shabbat, qui ne mange pas kasher, ou alors qui ne se conduit pas de manière morale, il est violent avec ses voisins, avec ses enfants, avec sa femme, ou encore toutes sortes de conduites, je pense que ce n'est pas la peine d'en faire la liste ici, alors on a une mitzvah. On a une mitzvah de lui faire un reproche, de lui faire une remontrance. Pas seulement un droit de remontrance, l'obligation de lui faire une remontrance. Mais nous disent nos sages, l'obligation que l'on a de faire une remontrance à son prochain, à son voisin, c'est uniquement si on sait que cette remontrance sera entendue, qu'elle portera ses fruits. Et nous disent ici nos sages, autant il y a une mitzvah de faire une remontrance à son prochain lorsqu'il ne se conduit pas comme il faut, si on sait que cette remontrance sera entendue, autant dans le cas contraire, lorsqu'on sait que la remontrance ne portera pas ses fruits, alors il y a à ce moment-là une mitzvah de se taire. C'est ça, nous dit Rav Ovadia Yosef, le sens du Pirkei Avot ici, lorsqu'il nous dit « Je n'ai rien trouvé de mieux que le silence ». Parfois, le silence est une mitzvah aussi grande, si ce n'est pas plus grande que la parole. Beaucoup de gens, c'est le contraire. Souvent, quand la remontrance peut porter ses fruits, ils n'ont pas le courage de la faire. Ils se disent « Je ne sais pas comment va réagir l'autre ». Par contre, quand ils savent que ça n'aura pas de fruits, ils ont tendance souvent à la faire, à éduquer leurs voisins, à éduquer les étrangers, à éduquer tout le monde, sauf eux-mêmes et leurs enfants. On raconte un jour, dans une petite ville, je ne sais pas si c'était en Europe de l'Est, c'est Rav Ovadia Yosef lui-même qui ramène cette histoire, qu'il y avait un homme qui s'était, un juif, qui s'était éloigné de ses frères, il s'était éloigné du judaïsme, il s'était un petit peu éloigné de tout le monde. Il avait quand même pas mal réussi dans la vie. Il était devenu directeur d'un établissement bancaire. Ça faisait donc longtemps qu'il n'était plus rentré dans le ghetto, qu'il fréquentait plus ses frères juifs. Et un jour, le Rav, accompagné de son gabaï, accompagné, n'est-ce pas, de son chamage, décida de rendre visite à ce banquier, à ce directeur de banque. La visite en elle-même était déjà assez surprenante, mais je crois que la suite l'était encore plus. Le Rav rentra chez le banquier, avec son gabaï, s'asseya et ne dit rien. Le banquier était un petit peu étonné, il n'osait pas s'adresser directement au Rav, il était déjà étonné de la visite, encore plus du silence. Il s'adressa gentiment au gabaï en lui disant « Dis-moi, tu sais pourquoi le Rav il est venu me voir ?» Et le gabaï dit « Je n'en sais absolument rien, le Rav est venu, je l'ai suivi, mais je ne sais absolument pas pourquoi il est venu. » Tout à coup, le Rav, après quelques minutes de silence, se leva et prit congé du banquier. Alors là, ça en était un petit peu trop pour le banquier, n'est-ce pas? Déjà de voir le Rav venir, en plus se taire, maintenant partir comme ça, c'était un petit peu trop pour lui. Il décida de se lancer, de suivre le Rav et de ne pas le lâcher jusqu'à ce que le Rav lui dise pourquoi il est venu. Et le Rav lui dit « Je suis venu pour une raison très simple, pour faire une mitzvah. Quelle mitzvah tu fais chez moi? T'as rien dit, tu t'es tué. De quelle mitzvah me parles-tu ? » Il dit « C'est très simple. La mitzvah de Toracha, de faire une remontrance. Mais tu ne m'as fait aucune remontrance, tu n'as rien dit, tu t'es tué. » Lui dit le Rav, c'est exactement cela que disent nos sages. De même qu'il y a une mitzvah de faire une remontrance quand elle sera entendue, de même il y a une mitzvah de se taire et de ne pas la faire quand on sait qu'elle ne sera pas entendue. Donc moi je voulais faire cette mitzvah-là, et la seule manière de faire cette mitzvah, de faire cette mitzvah, à savoir de garder mon silence et de ne pas dire des choses qui ne seraient pas entendues, c'était de venir chez toi, de m'asseoir, de me taire et de m'en aller. J'ai fait ma mitzvah. Au revoir et à bientôt. Alors le banquier décida de ne pas lâcher prise. Il dit, mais explique-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Quelle remontrance voulais-tu me faire? Il insista tellement que le Rav finit par lui dire. Il lui dit, ben écoute, c'est très simple. Il y a chez nous une femme veuve qui a 7 enfants qui sont tous des orphelins, qui doit de l'argent à la banque. Et elle a reçu une lettre de la banque comme quoi si elle ne payait pas la dette, alors elle serait expulsée de la maison. Le banquier lui répond, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Je suis directeur de la banque, mais je ne suis pas son propriétaire. Je n'ai pas la possibilité d'annuler les dettes de la banque. Ça n'est pas en mon pouvoir. Et le Rav à ce moment-là se met en colère. Je t'ai dit, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas te faire cette remontrance. Parce que je savais qu'elle ne serait pas entendue. Et donc à cause de toi, j'ai perdu la mitzvah de me taire, de ne pas faire une remontrance quand une remontrance n'est pas entendue. Tu m'as fait perdre cette mitzvah. Et le Rav partit, très en colère, et le banquier rentra troublé chez lui. Très troublé, il se dit, mais qu'est-ce qu'il veut de moi ce Rav? Qu'est-ce qu'il me demande? Il n'en dorma pas la nuit jusqu'à ce qu'il trouvait la solution. Il décida de prendre sur lui la dette de la veuve et de l'orphelin. Il savait qu'il ne pouvait pas l'annuler, il n'était pas le propriétaire de la banque, mais rembourser, lui qui en avait les moyens, la dette en question à la place de la veuve et de l'orphelin, ça il pouvait le faire. Il le fit. C'est cela, nous dira Rav Ovadia Yosef, le sens du Pirkei Avot. Il n'y a pas mieux que le silence. De quoi parle-t-on? De quel silence parle-t-on? Pas nécessairement le silence, à savoir de devenir muet jusqu'à la fin de nos jours. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné la parole, c'est aussi pour s'en servir. Mais de savoir quand utiliser la parole. Comment, de quelle manière. Savoir se taire quand il le faut et savoir parler quand il le faut. Et c'est cela à quoi doit nous amener la réflexion, le das, le sechel, la raison qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous. Melo Midrash Haikar Ela Amaase. Le principal, ce n'est pas dans la parole, mais dans l'acte. Nous avons décidément ici l'impression que le Pirkei Avot s'en prend à la parole. Déjà dans l'avant, on nous a dit « il n'y a rien de mieux que le silence ». On nous faisait l'apologie du silence. Maintenant, voilà qu'on nous fait l'apologie du maasé, de nos actes. En deux mots, on pourrait presque dire « tout sauf la parole ». Là encore, il s'agit de comprendre ce que veut nous dire le Pirkei Avot. Et il ne s'agit pas, loin de là, d'une condamnation univoque de la parole, mais encore de savoir quelle est la place de la parole dans nos actes. Nous disent les enseignements que toute notre étude doit mener à l'action. Et que de la même manière que notre étude doit mener à l'action, lorsque je suis Doresh, lorsque j'enseigne quelque chose aux autres, lorsque je leur fais du moussard, ou que je leur dis la halakha, je dois moi-même être capable de m'en tenir à ce que j'enseigne. Que mes actes soient au niveau de la parole. Et si jamais mes actes ne sont pas au niveau de la parole, que ce que j'enseigne, comme on le trouve chez tellement souvent de gens malheureusement, que ce que j'enseigne, que ce que je dis, ou la morale que je prêche, c'est valable pour les autres, et pas pour moi, alors mieux valait se taire. Mieux valait ne rien dire. Pourquoi ? En raison de ce principe qui nous dit que l'essentiel est dans la parole, que l'essentiel est dans l'acte et pas dans la parole. La parole, l'enseignement que je prodige est quelque chose qui doit mener à l'acte, non seulement pour les autres, mais pour moi-même. Rav Avraham Azoulay, dans son commentaire sur les Pirkei Avot, a ici une remarque intéressante. Pourquoi en apparence, je dis bien en apparence, cette condamnation de la parole? Des fois, pour être aimé par les autres, et aussi pour les aider, il est nécessaire de parler. Les gens ont souvent besoin qu'on leur parle, qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Et c'est souvent une très grande mitzvah de leur répondre, de leur dire quoi faire et de leur parler lorsque eux en expriment la demande. Où est donc le problème? Rav Avraham Azoulay nous répond que tout cela est vrai. C'est vrai que la parole a son importance, surtout lorsqu'elle aide et surtout lorsque l'autre en fait la demande. Mais même si tout cela est vrai, cela ne doit pas nous faire oublier que le plus important, c'est l'action. Celui qui sera capable de parler, de dire à l'autre quoi faire, qui voudra éduquer l'autre ou son voisin sans même qu'on lui en ait demandé quoi que ce soit, mais qui, lorsque son voisin aura besoin de lui, pas seulement d'une aide en parole, mais d'une aide en acte, alors à ce moment-là, il ne sera pas là, il ne sera plus là, alors à ce moment-là, il aura tout perdu. Celui qui parle, je veux dire. Il aura prouvé que sa parole n'a aucune valeur, qu'elle n'a aucune importance, qu'il enseigne en pensant à lui et pas aux autres. À la fin, nous dira Rav Avraham Azoulay, c'est sur l'acte que l'on juge notre attitude par rapport aux autres, et pas par la parole. Non pas que la parole n'ait aucune valeur, mais si cette parole ne s'accompagne pas du fait qu'on est capable d'aider l'autre, alors elle perd à ce moment-là toute sa valeur et elle révèle à soi-même et aux autres, en tout cas pour celui qui veut bien le voir, que cette parole ne valait rien. À la fin, c'est sur l'acte que nous nous sommes jugés. C'est l'acte qui révèle la véritable valeur de nos enseignements, de nos conseils et de tout ce qu'on peut prodiguer à l'autre par la parole. Nous allons donc terminer cette Mishnah par le dernier enseignement, à savoir que lorsque le Pirkei Avot nous enseigne que tout celui qui vient à trop parler, qui parle de trop, alors il amène à la faute. Décidément, on a l'impression ici que la parole est quand même un peu mise de côté. Ces trois enseignements semblent être, en apparence, encore je le dis bien encore une fois en apparence, pour ne pas tomber dans des malentendus, ça semble être une condamnation de la parole. En vérité, c'est faux. Ce serait plutôt une condamnation de la mauvaise utilisation de la parole ou d'une utilisation excessive de la parole. Mais qu'est-ce que ce dernier enseignement, après tout ce qu'on a condamné la parole ou sa mauvaise utilisation, qu'est-ce que ce dernier enseignement peut bien nous rajouter sur les deux précédents? Pourquoi nous dire, encore une fois, que Kol Amarbé, que tout ce qui parle de trop, il peut tomber dans le péché, il peut tomber dans la faute? Qu'est-ce qu'on apprend ici qu'on n'avait pas appris jusque-là? Alors, nous dit un des commentateurs, Rabbi Nouyana, me semble-t-il qu'ici, on parle spécifiquement de l'étude de la Torah. Nous avons dit, dès le départ, que le silence est d'or, si on peut dire, qu'il vaut mieux se taire que de trop parler. Nous dit Raphaël de Vologine que cela n'est pas vrai pour l'étude. Lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, au contraire, il faut parler, il faut expliquer, il faut être clair. Il ne faut pas reculer devant la parole, au contraire. Pas comme tous ceux qui, lorsqu'il s'agit de toutes sortes de choses futiles, ils parlent sans arrêt, puis dès qu'il s'agit de l'étude de la Torah ou de son enseignement, ils deviennent muets. Mais là encore, même dans l'étude de la Torah, la parole ne doit pas être excessive non plus. Et c'est ici de l'étude de la Torah et de l'enseignement de la Torah dont on parle. On vient nous dire ici que même dans l'étude de la Torah, il faut peser ses mots et ne pas trop utiliser la parole, du moins de manière excessive, sans quoi, effectivement, on peut là aussi ici tomber dans l'erreur. Et cette erreur-là peut amener à de très graves conséquences. Rav Hillel Zaks, le Rosh Yeshiva de Kiryat Sefer, disait que celui qui sait étudier, c'est pas seulement celui qui sait quoi dire. C'est aussi et surtout celui qui sait ne pas... qui sait aussi ne pas quoi dire, qui sait aussi se taire, qui sait aussi ce qu'il ne faut pas dire, pas seulement ce qu'il faut dire. Cette deuxième composante, savoir ce qu'il ne faut pas dire, elle est au moins aussi importante dans le niveau de l'étude que la première. Celui qui sait étudier, c'est aussi celui qui sait se taire, qui sait ne pas dire n'importe quoi ou de dire des choses qu'il n'y a pas besoin de dire. D'où apprend-on que la parole peut amener à la faute? Du premier homme, de Adam Arishon et de sa femme, Chava, ainsi que nous le dit le Barthénora. Je crois que l'histoire est connue. Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam Arishon de ne pas manger les fruits de l'arbre interdit. Et il dit cela à sa femme en ajoutant une deuxième chose. Non seulement ne mange pas les fruits, mais également ne les touche pas. Ne touche pas l'arbre. C'est là, comme on le sait, que le serpent vient, s'adresse à Chava et lui dit « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu a dit de ne pas manger les fruits de l'arbre ?» Et Chava lui dit « C'est vrai. Il a dit de ne pas les manger et aussi de ne pas les toucher. » Tout cela est faux, lui dit le serpent, et je vais te le prouver. Il poussa Chava contre l'arbre et elle toucha l'arbre. Il lui dit « Tu vois, tu as touché l'arbre, il ne s'est rien passé. » De même qu'il ne s'est rien passé si tu as touché l'arbre parce que ce n'était pas interdit de le faire, de même, il ne se passera rien si tu manges les fruits de l'arbre. Encouragé par cette première expérience, Chava mangea les fruits de l'arbre interdit. Qu'est-ce qu'il s'en suivit? La déchéance de l'humanité. Adam et Chava furent expulsés du Gan Eden, condamnés au travail, condamné aussi à la mort. Il devient à ce moment-là mortel, alors qu'avant il ne l'était pas. Qu'est-ce qui a entraîné ce terrible châtiment de la mort et avec lui la déchéance de l'humanité tout entière? Déchéance dont nous vivons les conséquences encore jusqu'à aujourd'hui, un mot de trop. Le fait que Chava a dit que non seulement Adam Arishon, qu'elle avait reçu d'Adam Arishon qu'il était non seulement interdit de manger les fruits de l'arbre, mais aussi de les toucher. Cette phrase de trop qui a entraîné la catastrophe. Nous disent Chazal, Cherev Beyad Alashon. La langue est, traduction non littérale, comme une sorte de sabre qui peut tuer. Trop parler, lorsque cela est surtout dans l'étude de la Torah, lorsque l'on veut prodiguer des enseignements, trop parler, ça peut entraîner pour l'homme, pour l'humanité, pour tous ceux qui, pour le peuple d'Israël, les pires conséquences. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas de parole qu'une parole mal utilisé. Mais bien entendu, vedibarta bam, la principale mitzvah, ça reste bien entendu d'étudier et de transmettre l'étude par la parole, mais à condition que ce soit fait comme il faut.